Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
Nous leur avons déjà exposé la parole, le Coran, afin qu'ils se souviennent. Ceux à qui, avant lui, le Coran, nous avons apporté le livre y croient. Et quand on leur récite, ils disent « Nous y croyons, ceci est bien la vérité émanant de notre Rabb. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis. » Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense. Pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Sourate Al-Qasas, ayat 51 à 55. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Donc là, il s'agit du 13e épisode de Raconte-moi Al-Qasas. Et on continue dans la conversation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a avec son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il leur parle justement des Quraysh, de leur comportement, etc. Et aujourd'hui, il va parler spécifiquement des Ahlul Kitab, d'accord ? Donc les gens du livre, les juifs et les chrétiens, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leur comportement vis-à-vis de la parole d'Allah. Donc on a eu jusqu'à présent le comportement donc des mécréants, des arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, leur comportement vis-à-vis de la parole d'Allah lorsqu'elle est révélée. Et là on a le comportement des Ahlul Kitab, parce qu'ils sont quand même une part très importante. Ahlul Kitab, donc les gens du livre, quand on dit des gens du livre, c'est tous les livres saints qui ont été révélés avant. D'accord ? Donc la Torah, l'Évangile, les psaumes, les feuillets de Daoud, alayhi salam, voilà, et les feuillets d'Ibrahim. Et donc Allah dit وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ. D'accord ? Donc, nous leur avons déjà exposé la parole. Donc ici, la parole, c'est le Coran, bien sûr, afin qu'ils se souviennent. Le verbe qu'Allah emploie pour parler de le fait qu'ils ont déjà été exposés à la parole d'Allah, eh bien, c'est wassala. D'accord ? Wassala, de la racine wassala. Et wassala veut exactement dire le fait de joindre des choses, de raccorder, d'unir fermement. Le fait de faire parvenir quelque chose à quelqu'un d'une manière continue. Donc, il y a cette notion de quelque chose déjà qui bouge, qui voyage et qui arrive à destination et qui fait un lien entre les deux points. Le Coran n'a pas été révélé en un bloc. C'est un peu de ça qu'il est question ici, mais ça a été révélé graduellement, donc de manière continue par contre. Hein, d'accord ? C'était pas de manière discontinue. Et pourquoi ? Allah dit pour qu'ils se souviennent. L'être humain oublie. Il a besoin d'un rappel qui ne soit pas discontinu, justement. Et c'est dans ce sens que certains passages du Coran, d'ailleurs, se répètent. J'entends des fois des gens dire « mais le Coran est très répétitif ». Eh bien, c'est volontaire. C'est ce qui est répété, ça l'est pour nous rafraîchir la mémoire, pour nous éveiller à un ou à quelques principes fondamentaux qui sont justement dans ces ayats, qui sont trop importants pour le coup pour ne pas pour être oubliés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les répète. Donc quand on a des ayats comme ça qui se répètent, ou bien des passages de la vie d'un prophète qui se répètent, eh bien c'est censé attirer notre attention. Si ça se répète, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important ici que je dois me souvenir. Donc je dois avoir une méditation particulière pour ces ayats-là. Et c'est par rahma que ça a été révélé graduellement, le Qur'an. Ça montre la nécessité de rester connecté à la parole d'Allah. Donc encore toujours la même chose qui revient, la connexion avec la parole d'Allah. Dans Surat Qasas, Allah nous le fait comprendre plusieurs fois quand même. Et pour nous aussi, qui recevons finalement le Qur'an après, on pourrait dire que nous, on l'a reçu d'un bloc. Nous qui venons des générations après, le Qur'an, il n'est pas venu petit à petit. Eh bien, regarde le miracle d'Allah. Même pour nous, les choses aussi sont graduelles. Parce qu'il faut prendre du temps pour lire, pour méditer, pour apprendre, pour revisiter les sourates du Coran. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de personnes qui ont lu tout le Coran en une seule nuit ou en une heure. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ont mémorisé le Coran en moins d'une semaine ? Est-ce que tu connais des personnes, par exemple, qui ont médité tout le Coran en moins d'un mois ? Il faut du temps. Donc même nous, on a l'effet graduel du Coran, on a aussi les côtés répétitifs du Coran, on a ce côté où le Coran suit notre rythme d'être humain qui oublie et qui a besoin d'être rappelé régulièrement. Et dans la Ayah 52, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Ceux à qui avant lui, nous avons apporté le livre, y croient. » Donc ici, il parle des gens du livre, hein, bien sûr. Donc avant la révélation du Coran, donc les juifs, les chrétiens. Et les vrais croyants parmi eux, ce sont eux qui ont cru au Coran quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur en a parlé. Ceux qui croyaient vraiment en la Torah et à l'Évangile. Ça, c'est très important comme information. En fait, Allah, il est en train de nous donner une règle claire. Ceux qui étaient réellement croyants dans leur foi, chrétiens et juifs, quand ils entendent le Coran, ils sont censés y croire immédiatement, quasiment. Quand ils apprennent à propos du Coran, ils y croient fermement et naturellement. Mais on apprend à côté de ça dans le Coran, dans Surat al-Baqarah précisément, que أكثرهم لا يؤمنون. La plupart d'entre eux ne croient pas. Il y en a parmi eux qui ont cru, et il y en a d'autres pas. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. Et on apprend toujours dans Surat al-Baqarah qu'une partie de Ahlul Kitab n'a vraiment pas supporté que le dernier messager ne soit pas arrivé parmi eux, chez eux. D'accord ? Donc dans la Ayah 90, Allah subhanahu wa ta'ala dit بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. Donc ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère. Donc Allah les décrit un peu leur rage là. Donc ils ont développé une animosité et une certaine jalousie quand même vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on apprend dans Surat Ali Imran que les gens du livre ne sont pas tous les mêmes. D'accord ? D'ailleurs, en aparté, si tu cherches la sourate dans le Coran qui te montre comment Allah a enseigné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment s'adresser, comment composer avec les juifs et les chrétiens de son époque, eh bien tu vas arriver à bonne destination avec sourate Ali Imran. Parce qu'il y a énormément de passages, la sourate c'est quasiment que ça presque, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse déjà aux gens du livre, il y a Ahl al-Kitabi, il leur pose des questions, pourquoi faites-vous ci, pourquoi faites-vous ça, ne pensez-vous pas que, et qui s'adresse énormément aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment finalement accueillir les objections, à la fois aussi les émotions, les questions de ces gens-là. Donc très très intéressant. Et donc, dans Surat Ali Imran, ici au ayat 113 à 115, Allah subhanahu wa ta'ala parle du fait justement qu'il ne faut pas mettre dans le même sac tous les juifs et les chrétiens. Tous ne réagissent pas comme ceux qui ont aidé les Quraysh de Mecca contre Rasulullah en lui disant bah, « demandez-lui ceci, demandez-lui cela ». S'il répond à cette question, alors c'est vraiment un prophète. S'il ne répond pas, voilà, chaque fois Rasulullah a répondu et ça ne les a pas empêchés en fait de continuer bah, de mécroire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran Laysu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui aux heures de la nuit récite donc et le suivent comme il doit être suivi les ayat d'Allah et se prosterne. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ils croient en Allah et au jour dernier ordonnent le convenable, délaissent et interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Et quelque bien qu'il fasse, il ne le sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Donc encore un rappel ici de ne pas faire de préjugés et de stéréotyper les gens juste par leur appartenance culturelle, ou religieuse d'ailleurs. Mais prendre la personne pour ce qu'elle est à l'instant T devant nous. Un être humain, tout simplement, qui est faillible avec des qualités, avec des défauts. Ici, on voit qu'ils ont compris. Donc c'était des chrétiens en l'occurrence auxquels Allah subhanahu wa ta'ala fait référence précisément. Ils ont compris que dès lors que ce livre, le Coran, est révélé par la même source, donc Allah, eh bien ils suivent, ils y croient fermement, comme ils ont cru fermement à leur livre avant. Ceux-là n'ont aucun mal à suivre le Coran parce qu'ils étaient déjà des vrais croyants de leur livre et de leur prophète avant. D'après Ibn Abbas, cette ayah, comme je te disais, fait spécifiquement référence à des chrétiens, précisément à des Abyssiniens, donc du royaume de An-Najashi, le Négus, donc ce roi juste en Abyssinie, donc l'actuelle Éthiopie, qui a accueilli les musulmans, partis se réfugier chez lui à cause des mauvais traitements qu'ils ont subis à la Mecque. Il les avait bien traités, donc si tu connais ce passage-là, il avait entendu des ayats du Coran, surat Maryam, il a été très 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 touché et il avait refusé de livrer les musulmans au Quraysh, donc notamment à Amr ibn al-As qui était venu et qui était envoyé justement par les dignitaires de Mecca pour, parce qu'il était ami du Négus, pour justement demander à ce que les musulmans leur soient rendus. Et le Négus avait refusé, il avait dit contre une montagne d'or, il ne livrerait pas ces gens, pas en tout cas après avoir entendu la vérité. Et donc ce roi a cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'islam et quand le Coran a été récité, il a été touché immédiatement. Eh bien, il y a une délégation de 40 hommes de chez lui qui sont venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici ce qu'Allah dit d'eux à la prochaine ayah. Et quand on leur récite, ils disent « Nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Rabb. Déjà, avant son arrivée, nous étions soumis. » C'est trop beau en fait. Ils disent « Inna kunna min qablihi muslimin ». Donc là, on voit bien, donc on a encore la preuve que les chrétiens juifs, autant en tout cas de leurs prophètes chacun, ils étaient les musulmans de leur époque. D'accord ? muslimin, dans le sens soumis à Allah, pas dans le sens musulman, juif, chrétien qu'on entend aujourd'hui, mais vraiment dans le sens la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment une magnifique ayah celle-là, je l'aime beaucoup. En fait, ils ont pris le temps d'écouter attentivement le Coran. Pas seulement se dire « Oh, c'est une parole mélodieuse, la mélodie est belle », ou écouter en pensant encore à autre chose, ne pas être complètement concentré quand on écoute et du coup on passe à côté de certains sens du Coran. Ils ont été immédiatement touchés. En fait, ils ont instantanément cru en écoutant le Coran. Ils ont en plus trouvé que les ayats du Coran leur étaient familiers. Il y avait quelque chose de reconnaissable dans les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Il y a quelque chose qui leur semblait vraiment... on a l'impression de connaître quelque chose là-dedans. Ils ont compris que c'était la parole d'Allah, tout simplement, parce que c'est la même source. Ça se voit que c'est le même qui a révélé la Torah, qui a révélé l'Évangile. C'est le même qui a révélé le Coran. C'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Donc c'est juste que cette parole-là, le Coran, eh bien elle est encore meilleure. Donc ils disent, nous y croyons. C'était bien, donc ceci est bien, la vérité émanant de notre Rabb. Donc ils ont reconnu tout de suite, et regarde leur façon de parler d'Allah, notre Rabb. Donc c'est comme s'ils disaient, mais en fait, on était limite, on savait que ça allait arriver, on attendait juste en fait la nouvelle, le top départ de ce prophète. Donc oui, en fait, on sait, on comprend en fait que ça vient d'Allah. En fait, même avant le Coran, nous étions musulmans avant, donc soumis à Allah, nous étions muslimines, c'est ce qu'ils disent. Et maintenant, nous sommes encore plus croyants, et c'est une étape, une future étape en fait, qui est logique pour eux. Ils croyaient fermement, donc c'est Ahlul Kitab, ces chrétiens-là, en leurs livres. Ils vivaient selon les préceptes de leurs livres, et quand le dernier messager arrive, sallallahu alayhi wa sallam, ils le suivent. Parce que sa venue, en plus, a été annoncée dans la Torah et dans l'Évangile. Du moins, ce qui n'a pas été falsifié de ces livres-là. En fait, tous les prophètes savaient, parce qu'Allah les avait informés, ils savaient qu'il y aurait un dernier messager qui arriverait longtemps après. Et ils connaissaient ces caractéristiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils appelaient leur peuple à le suivre si jamais ces gens-là venaient à croiser l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire de Salman, donc ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Salman al-Farisi, comme on appelle, donc Salman le Perse, donc comme le nom l'indique, venait de Perse. Et en fait, lui, donc c'est un chrétien pratiquant, il avait appris qu'un messager allait arriver dans cette région d'Arabie. Et donc, il a quitté la Perse, il a fait tout ce voyage-là pour venir rencontrer ce prophète. Il a donc cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et au Coran, avant même de le rencontrer. Salman, c'est ce que j'aime avec ce compagnon, Rasulallah a dit de lui, « Salman min ahlil bayt ». Franchement, quelle chance, quel privilège. « Salman min ahlil bayt », ça veut dire « Salman est de chez moi ». Ahlul Bayt, c'est le nom qu'on dit pour les membres de la maison, d'accord ? Les membres de chez moi, ma famille, c'est ce qu'on dit quand on dit Ahlul Bayt. Donc Salman est de chez moi, il est de ma famille, c'est un membre de ma famille. C'est un honneur, waouh. D'ailleurs, les compagnons disaient que s'ils n'avaient pas déjà le privilège d'être les premiers qui ont cru, d'être ceux qui ont émigré à Médine, eh bien ils enviraient énormément Salman, radiyallahu anhu. Et cette ayah-là qu'on vient de lire avec ces chrétiens qui disent « Nous y croyons, ceci est bien, la vérité émanant de notre Rabb », déjà avant son arrivée, nous étions soumis. Ça me fait beaucoup penser à un passage dans Surat Al-Ma'ida. Donc j'aime bien, mashallah, avec des surats comme Al-Qasas et d'autres, pour s'enrichir encore plus du contexte, c'est d'aller justement, c'est ce que Surat Al-Qasas nous demande de faire, d'aller faire un peu un appel... à d'autres passages du Coran qui viennent en fait, qui viennent détailler ce qui vient d'être dit. Donc Al-Qasas, c'est vraiment le récit en lui-même et il nous rappelle régulièrement d'autres passages. Et donc dans Surat Al-Ma'ida, à la ayah 83, à la ayah 85, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Rabb, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent donc de la véracité du Coran. Et pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitons-nous pas que notre Rabb nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Donc, comme tu vois, c'est très beau parce que on parle de chrétiens et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il est en train de décrire là, c'est le comportement d'un typique musulman qui entend les versets d'Allah, qui les médite la nuit, dans le dernier tiers de la nuit en prière, et dont les yeux et le cœur en fait débordent d'émotions et de larmes. Et bien là, il parle de ces gens-là. C'est-à-dire, ces chrétiens-là qui sont venus écouter la parole d'Allah et qui sont mis à pleurer instantanément, qu'ils étaient hyper émus et qu'ils ont cru tout de suite. Et ça me fait penser, ça, cette histoire-là, à une anecdote par rapport à mes enfants que je trouve intéressant de raconter. Alors, à mes enfants, il y a un moment, quand je voulais leur expliquer justement les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'ils m'ont posé une question, ils étaient un peu étonnés, limite choqués. Ils disent, mais maman, c'est les juifs et les chrétiens, normalement, ils ne devraient pas exister. Je leur demande pourquoi. Bah, en fait, si chacun y suit son prophète, c'est toi-même, maman, qui nous a enseigné qu'aucun prophète n'est parti, sans annoncer celui qui va le suivre. Exact. Je leur dis exact. Ils me disent, bah alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des juifs et des chrétiens? Normalement, chacun y suit le prophète suivant. Et aujourd'hui, tout le monde devrait être musulman, en tout cas parmi les Ahlul Kitab. Il devrait y avoir des musulmans et juste des mécréants, polythéistes, athées, etc. Mais les juifs et chrétiens, eux, en gros, font quoi ici encore? Et donc, pour imager ça, je leur ai expliqué, en fait, parce qu'ils avaient un peu du mal à comprendre. Je leur ai imagé avec toujours mes métaphores, même eux, ils y ont droit, les pauvres. Et donc, toujours moi et mes métaphores. Donc, je leur avais un peu imaginé un train. Je leur ai dit, imaginez, vous avez le train de la vie comme ça. Et donc, le premier conducteur du train, c'est Papa Adam, alayhi salam. Et donc, les gens qui montent dans le train, c'est les gens qui arrivent, donc les générations qui arrivent les unes après les autres et qui croient en lui. Et donc, à chaque fois qu'un prophète, son temps est révolu, eh bien, il monte au ciel, donc il est ressuscité, enfin, il rejoint Allah plutôt, et donc un autre prophète le remplace. Un autre prophète surgit et le remplace et devient, donc c'est toujours un prophète qui dirige le train. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand c'est par exemple les juifs, donc avec Moussa alayhi salam, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes, quand Moussa alayhi salam, en tout cas, toute cette génération-là est partie, et bien eux, ils sont descendus du train et ils attendent sur le quai. Ils attendent quoi? Bah, la venue d'un prophète. Ils savent qu'il y aura la venue d'un prophète, mais ils sont persuadés qu'il va venir parmi eux, en fait, dans leur culture, parmi eux. Donc, ils descendent du train et ils se disent, bon, Moussa n'est plus là, nous, on attend sur le quai. On attend le prochain train. Et donc, dans le train, les prophètes se succèdent. Arrive le prophète Aïssa qui ne part pas sans dire qu'il va venir après lui un prophète du nom de Ahmed, d'accord? Sauf que ce nom-là a été effacé des évangiles, il n'est plus présent. Aujourd'hui, si on leur dit « prophète Mohammed a été annoncé », ils vont te dire « eh ben non ». Mais tout simplement, si tu falsifies le livre saint qu'on te donne, tu risques pas de trouver le nom du prophète dedans, alors qu'Aïssa l'a mentionné en disant que viendra après lui quelqu'un qui s'appelle Ahmed et qu'il faut le suivre. Et donc, pareil pour eux, Aïssa alayhi salam donc va rejoindre son Rab. Et donc là, la prochaine destination du train, il y a un petit gap. Et là, c'est qui devient le conducteur? Rasulullah sallallahu alayhi salam. Et là, pareil, il y a des chrétiens qui sont descendus du train et qui attendent sur le quai le temps que un nouveau prophète émane ou que Aïssa alayhi salam revienne. Et ça avance, ça avance. Et donc, je leur imaginais ça comme ça. Je dis, voilà, donc, et dans le train, il y a des aventures, il y a des naissances, il y a des familles qui se créent, il y a ça. Il y a des gens qui descendent du train, ceux qui quittent la religion ou bien qui n'y croient pas. Il y a des gens régulièrement qui vont monter dans le train, c'est ceux qui se convertissent à l'islam, d'accord, qui montent, qui se disent, il y a un train qui passe, ça a l'air intéressant, ils montent, ils restent dedans, etc., etc. Donc, mes enfants ont vraiment enregistré cette métaphore. Et je me rappelle d'un jour où eux deux, je ne sais plus s'ils parlaient à mon voisin, de palier ou à quelqu'un, en tout cas, ils parlaient à quelqu'un de non-musulman, mais qui était chrétien, et ils lui ont demandé, ils ont dit, mais pourquoi vous êtes descendu du train, en fait? Comment ça se fait que vous n'avez pas pris le train? Pourquoi vous n'avez pas pris le train jusqu'au terminus? Vous attendez quoi sur le quai? Ça m'a bien fait rire. Et donc, je leur expliquais, bon, vous n'allez pas à chaque fois arrêter quelqu'un, un juif ou un chrétien que vous croisez pour leur dire pourquoi, en fait, t'es descendu du train. Mais pour eux, c'était logique. Donc, l'histoire du train, pour eux, les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas compris que le train avait un terminus, qui sont descendus du train, qui attendent sur le quai jusqu'à quand, on ne sait pas. Et donc, jusqu'à Yom El-Qiyama, ils vont attendre comme ça qu'un prophète vienne alors qu'il est arrivé et que le train a avancé. Voilà. Ça, c'était la petite anecdote, l'aparté pour imager ça. Donc, à la suivante, 54. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance et pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Donc, on va leur donner deux récompenses, deux fois, aux juifs et aux chrétiens, ceux-là, ceux qui ont cru, bien sûr, hein, ceux qui sont véritables croyants. Une récompense, donc une fois, parce qu'ils ont cru en leur prophète, quand Allah les a envoyés, et ils ont cru en son livre, et une autre fois, cette fois-ci la deuxième fois, pour leur deuxième profession de foi, quand ils ont cru en Mohammed et en le Coran. Allah parle de sabr ici, donc la patience constante, hein, et active, d'accord, proactive. Car il en faut, en fait, du sabre pour s'imprégner de la parole d'Allah, pour le lire, pour le comprendre, pour l'appliquer, pour l'apprendre. Et il faut être aussi patient une deuxième fois pour faire la même chose avec le Coran après. Et il y a un hadith d'après Abu Musa, radiallahu anhu, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc je cite le début du hadith, il a dit, il est trois catégories de personnes qui ont une double récompense. Et parmi eux, donc le premier qui cite, c'est quelqu'un des gens du livre qui, ayant cru en son prophète et survécu jusqu'à l'avènement de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a cru sincèrement en lui et l'a suivi. Donc c'est vraiment très très fort. Donc il faut vraiment respecter les gens qui sont chrétiens et juifs et qui se convertissent à l'islam. Parce qu'ils ont un double mérite. Peut-être que les musulmans nés musulmans n'ont peut-être même pas. Le sabr dans le fait de changer leurs habitudes, Allah vraiment les valorise beaucoup dans cette ayah. Parce qu'il en faut du sabre pour changer les habitudes, parce qu'il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux codes, etc. L'alimentation, ça change ce qui est halal, haram, avant c'est plus pareil. La prière qui va être prescrite, le hijab qui va être prescrit des années après à Médine, ce n'est pas facile de changer toutes ces habitudes. Allah nous laisse savoir dans cette ayah qu'il sait parfaitement que ce n'est pas facile, d'où la double récompense. Leur sabre aussi pour avoir répondu au mal par le bien, comme Allah mentionne dans cette ayah. Il repousse le mal. Il ne l'accepte pas. Le verbe vraiment qui est utilisé ici pour dire qu'ils ont remplacé en fait le mal par le bien, il dit « wayadra'una ». Wayadra'una, ça veut dire vraiment le fait de repousser quelque chose. Mais il repousse le mal, voilà, ça veut dire qu'il ne l'accepte pas. Donc il y a ce mal-là, j'accepte pas cette chose, je la refuse. Mais il y a des façons en fait, d'accord ? Ils le font de la meilleure des façons. Et il remplace ça, c'est ça qui est beau, il remplace ce qu'il refuse catégoriquement par quelque chose de bien, de meilleur. Et ça, c'est une autre forme de sabre. C'est le fait de devoir faire face aux siens, à la société, à la famille. D'accord ? Là, je pense que ce passage-là va beaucoup parler aux gens qui se sont reconvertis à l'islam. Parce qu'on peut faire face, en fait, à une famille qui ne veut pas accepter leur conversion à l'islam véritable. Celui du dernier messager, ils peuvent entendre, donc ces personnes qui se reconvertissent à l'islam, des paroles blessantes, avoir voilà, les ponts coupés, d'accord, ceux qui coupent les ponts dans leur famille, les sévices sur le plan moral ou physique, les insultes. Allah sait parfaitement que ce n'est pas facile. Les gens qui font preuve de sabr dans ces cas-là sont hyper méritants pour Allah. Ça demande du courage de se convertir à l'islam déjà. Puis du courage pour se maintenir dans l'islam, d'où la double récompense. Et c'est le cas ici de An-Najashi, le Négus, donc le roi d'Éthiopie, d'Abyssinie, qui a eu le courage de croire en Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et de le faire savoir, de le dire, et de changer ses habitudes et de suivre l'islam tout simplement. Le message avait été aussi, donc le message de l'islam avait été aussi envoyé à l'empereur de Byzance, de l'Empire byzantin à l'époque, donc l'empereur romain Héraclius, qui était connu pour sa grande foi chrétienne. Donc Rasulallah avait fait envoyer des lettres à plusieurs personnes, d'accord, donc en Perse, en Syrie, en Abyssinie, et Après avoir reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Héraclius, on a dans Sahih Bukhari des narrations correspondantes à cette étape-là. Eh bien, il voulait croire fermement en fait. Il a reconnu que c'était vraiment la parole d'Allah. Il avait même interrogé les Arabes qui étaient donc de voyage pour le commerce, notamment Abu Sofiane. Il l'avait fait appeler parce que la lettre l'avait intrigué. Et en fait, il lui avait posé des questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait répondu, donc n'hésite pas à lire des narrations à ce sujet-là. Et donc après, à chaque fois, il disait de quelle ligne il était, est-ce que c'est plutôt des pauvres ou des riches qui le suivent, est-ce qu'il demande un salaire pour ça, est-ce que... Et en fait, il avait même dit à la fin, il avait dit, si tout ce que tu dis là, c'est vrai, eh bien, un jour viendra, très prochainement, il va être debout là où je suis debout, là, moi. Donc en gros, il va gagner, tout simplement. Et donc il voulait vraiment croire. Mais il n'a pas réussi à résister et à tenir tête aux prêtres et à ses conseillers. Et du coup, il n'a pas eu le courage de les avoir à dos. Il avait craint, en fait, finalement, la perte de son pouvoir, de ses partisans, etc. Donc, il n'a pas fait preuve de sabr dans la pratique de l'islam. Donc, il a cru une fois, mais il n'a pas fait de sabr pour se maintenir dedans. Donc, ce n'est vraiment pas chose aisée. Là où An-Najashi l'a fait sans problème. Et enfin, la Aya 55, la dernière qu'on fera aujourd'hui. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions, à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Donc « Salam alaykoum, la nabatari al-jahilin. » C'est une de mes ayats préférées quand on parle de gens ignorants. Mais tu vas voir que l'ignorant, c'est pas seulement le fait de ne pas savoir. Et quand on parle d'ignorant, on parle pas forcément... des gens qui ne croient pas en l'islam. L'ignorance a plusieurs formes. C'est le fait de nier la vérité aussi. C'est le fait de ne pas savoir tout simplement. Et c'est le fait aussi quand la vérité est là, elle est évidente, la personne décide en fait de faire la sourde oreille quand même. Ça, c'est de l'ignorance. Et donc, le mot qu'Allah emploie pour parler de l'arro, donc des futilités ici, eh bien, c'est l'arro justement. Donc, les futilités. Et c'est un discours qui ne comporte aucun bénéfice. En gros, l'arro, c'est des choses qui... En fait, si tu les écoutes, ça t'a rien apporté de probant, d'intéressant dans ta vie, etc. Et si tu ne les écoutes pas, ça va rien diminuer aussi au bien de ta vie, tout simplement. Et dans l'arou, il y a aussi les mauvaises paroles, hein, parce que des mauvaises paroles sont aussi des paroles futiles. Et en fait, tu ne perds rien en évitant ces choses-là. Ces paroles-là, l'arou, on ne tue pas seulement notre temps en les écoutant ou en visionnant des choses futiles. On tue aussi notre âme petit à petit à force de l'arro. Parce qu'on gave notre âme à ce moment-là de ce qui n'est pas sain et nourrissant pour elle. Et on sait ce qui nourrit l'âme. Et souvent, les futilités sont à propos de choses en plus qui ne nous concernent pas. Et il ne faut pas s'engager dans ce qui ne nous concerne pas. Donc Allah Soudan nous a dit que fait partie du bel islam de quelqu'un le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et donc, c'est Ahlul Kitab, là, qui croient en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en le Coran, eh bien, ils s'en éloignent, en fait. Allah dit qu'ils ont vraiment le comportement de musulmans, en fait. Eh bien, ils s'éloignent des futilités. Et quand on leur adresse des paroles blessantes, stupides, inutiles, eh bien, ils ne répondent pas à la provoque. Ils font comme ça, en fait, avec ceux qui essayent de les critiquer ou se moquer de leurs croyances en islam. Ils s'en protègent. En gros, faites ce que vous faites. Et nous, on fait ce qu'on fait. Et cette ayah nous apprend aussi à apprendre à passer au-dessus de la critique. En fait, ça doit nous passer au-dessus de la tête. Se défaire aussi du regard des gens par rapport à ce qu'on croit, à nos convictions et de ce qu'ils peuvent penser. C'est leur problème, en fait, si les gens te lancent des piques. C'est pas ton problème à toi. Toi, souhaite-leur la paix et laisse-les face à leur ignorance. Il faut vraiment pas prendre les choses pour soi. Faut vraiment se dire, on vous quitte en paix. D'ailleurs, on dit salam, on a alaykoum, la nabatari al-jahilin. On ne veut pas être comme vous dans l'ignorance. Ce n'est pas supprimer nos émotions, d'accord, mais c'est nous respecter dans nos standards, en fait. Et la délégation là, des 40 Abyssiniens, Ibn Abbas rapporte que les gens de Mecca, donc notamment Abu Jahl, donc quand tu vois Abu Jahl, donc le père de l'ignorance, donc c'est assez impressionnant que justement ce soit lui qui parle. Eh bien, il leur a dit, alors que ces 40 gens, dignes, des dignitaires hein, chrétiens venus d'Abyssinie, il dit « Nous n'avons jamais vu de délégation plus bête et idiote que vous. Vous avez fait tout ce chemin pour le rencontrer, Cet homme, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, alors que vous aviez déjà un livre et une religion et un roi. Et donc ces chrétiens-là avaient répondu cette ayah. Donc lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Et l'ironie c'est que Abu Jahl, donc le père de l'ignorance, eh bien c'est lui qui reçoit cette punchline, hein, leur punchline en pleine face en fait. Donc t'imagines quelqu'un qui te dit la nabtaril jahilin. En fait, on ne recherche pas les ignorants, nous. On n'a pas ton temps, tu vois. Ça fait mal quand même. Donc, ne nous rabaissons jamais au niveau des ignorants. On ne se laisse pas faire, d'accord, c'est important, mais on se respecte. Et on ne joue pas le jeu de la surenchère dans l'ignorance. De toute façon, on ne gagne jamais un débat avec un ignorant, d'accord. C'est l'imam Shafiri, je crois, qui disait ça. Que voilà, qu'il a jamais débattu avec un ignorant sans en fait perdre à chaque fois en fait, parce que tu peux pas. Un ignorant, c'est le débat en fait, c'est mort avant la fin. C'est même pas la peine. Donc la seule réponse qu'on donne aux ignorants, c'est salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Allez, on se retrouve demain inchallah pour la suite de cette passionnante conversation avec Allah subhanahu wa taala et son messager. Pour tirer encore plein de pépites que nous on peut utiliser encore aujourd'hui, Inch'Allah.